On s'en va dans Romains au chapitre 2 ce matin. On commence le thème du mois d'octobre, qui est Dieu immortel. Ah, c'est tellement merveilleux. La parole de Dieu, c'est un trésor inépuisable. Si quelqu'un vous dit un jour qu'il a tout compris, ce qui est dans la Bible, il est en train de vous prouver qu'il n'a rien compris. Parce que la Bible, c'est Dieu qui nous révèle sa pensée, puis qui a connu la pensée du Seigneur? Je veux dire, on peut connaître bien des choses, puis Dieu nous donne tellement de choses. Dieu a beaucoup de biscuits sur la tablette du bas, mais c'est infini. Je veux dire, on peut, c'est des richesses tellement grandes qui sont inépuisables. On peut toujours aller puiser, puis il y a toujours une fraîcheur. Pas nécessairement une nouveauté, parce que les doctrines sont établies, puis la parole de Dieu est complète. Mais la fraîcheur de la parole de Dieu est toujours renouvelée. Et on est dans le chapitre 2. On va lire les versets 1 à 11 pour s'introduire. Malgré que je vais surtout m'arrêter sur un verset. Et ça va être la base de notre message pour ce matin. Donc, Romains 2, verset 1. « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. » Puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les fait que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance, afin à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation est pour et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. On va prier. On te remercie, Père éternel, de ce qu'on a ta parole entre les mains ce matin et que tout ce qui est en toi est vie, vérité et bonté. Et donc, Seigneur, on vient ce matin recevoir des trésors abondants de ta grâce. Et merci, Seigneur, que tu es au milieu de nous. Ah, merci pour les cantiques qui nous ramènent les yeux directement dans le ciel ce matin, Seigneur. Merci pour ta parole chantée. Et alors qu'on s'arrête maintenant avec ta parole écrite, pour considérer les vérités qui ont une portée éternelle sur nos vies, que sobrement on considère ces choses, silencieusement, qu'on se repose dans ces choses et que, Seigneur, tu opères ta délivrance dans nos vies. Délivrance de tout piège qu'on pourrait laisser prendre le dessus. Et Seigneur, on vient à toi, le Dieu de liberté, le Dieu de vérité, le Dieu de vie. Et on te remercie, Seigneur, que ta parole ne revient pas sans effet. Alors on s'attend à ce que tu accomplisses ton œuvre dans chacune de nos vies. Seigneur, dispose nos cœurs et qu'on réponde par la foi à ce que tu as pour nous ce matin. On prie ces choses. Au nom de Jésus. Amen. Alors, vous avez peut-être remarqué, mais au verset 7, il y a le mot « immortalité ». C'est-à-dire, il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Ici, ça dit qu'il cherche. Il cherche trois choses, dont l'immortalité. C'est-à-dire qu'ici, ça parle des enfants de Dieu, de ceux qui, dans lesquels Dieu fait une œuvre de grâce. Et c'est un trait ou une aspiration, cette recherche de l'immortalité que Dieu met dans ses enfants. Pas dans le sens d'essayer de gagner son ciel, mais on aspire. Ah, on a hâte à ce royaume céleste où est-ce qu'il n'y a plus de mort, parce qu'on sait la mort, c'est la séparation. La mort, c'est la malédiction qui est venue par la chute. Et donc, quand on est un enfant de Dieu, on aspire à cette immortalité. Pourquoi? Parce que c'est dans le caractère même du Dieu qui nous a sauvés. Notre Dieu est immortel, donc avec son salut vient ce désir d'immortalité. Et ça nourrit certainement notre espérance. On l'a vu ce matin quand on chante. Ce matin, on a chanté sur l'immortalité de Dieu, de son royaume inébranlable. Maintenant, je dois vous faire une petite confession. Je dois vous avouer que, en priant, en me préparant pour le thème du mois d'octobre, je me sentais un peu dans un cul-de-sac. Où je me disais, ouais, sur quoi je vais prêcher? L'immortalité. Tu sais, j'étais un peu pris par moi. Je dis, pourquoi j'ai pris ce thème-là pour le mois d'octobre? J'ai pas dû penser que fallait que je prêche là-dessus. Mais Dieu est toujours fidèle. Hein? Il dirige ceux qui le cherchent comme ça. Et dans sa fidélité, sa bonté, il m'a clairement dirigé par rapport à ça. Il m'a montré sur quoi vous... Fait que faites-en pas, j'ai quelque chose à prêcher pour le mois d'octobre. En tout cas, pour aujourd'hui, on verra pour le reste. Là. Non. Mais Dieu, dans un temps de prière... M'a communiqué sa pensée par rapport à ça. Je vous communique un peu c'est quoi qui m'a fait connaître. D'abord, c'est dans... Vous savez, on est tous dans des temps de bouleversement et de d'épreuves, OK? Donc, Dieu travaille déjà de toutes sortes de façons, hein? En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi... même des fois, moi, c'est je dis la nuit, mais c'est tôt le matin. Là, ça part. Puis là, je pense à toutes sortes de choses. Mais c'est ça. Donc, à travers le temps que Dieu... comme ça travaille dans mon cœur. Puis Dieu me rappelle souvent sa souveraineté. Dieu est au contrôle, sa sagesse. C'est Dieu qui a décidé. C'est quoi? Dieu n'a pas fait une erreur avec ce qui nous arrive. Là. C'est dans sa sagesse, sa souveraineté puis sa bonté. Ok? Et ça c'est en contraste avec mon irritation puis le malaise. C'est comme, tu sais, ça. Je pense j'en parlais c'est mercredi. Ça me choque là, des affaires là. Mais Dieu lui. Il n'est pas irrité par ça puis tout ça. Parce qu'il sait exactement où s'en va avec ça. Et voici ce qu'il m'a rappelé à la lumière de tout ça. Il m'a rappelé que l'immortalité de Dieu nous donne une perspective éternelle sur les choses. Avant, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que le monde dans lequel on est immortel, est mortel et voué à la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Boum! C'est la malédiction qui est tombée sur ce monde ici-bas. Tandis que Dieu, avec lui, il n'y a pas de mort. Dieu n'est que vie. Et donc, quand on pense à l'immortalité de Dieu, ça nous ramène à l'éternité parce qu'il n'y a pas de ça ici-bas, de l'immortalité. Ah, les hommes, ils aspirent. Je ne sais pas si vous regardez un peu des fois, les gens, soit philosophes, religieux, ou même des gens dans la politique, la science, aimeraient donc accéder à l'immortalité, des fois par la technologie, des fois par des espèces de bizarreries, spirituel ou, je dirais plutôt, occulte. L'homme aspire à l'immortalité, mais il y a un seul Dieu qui est immortel et c'est juste lui qui donne l'immortalité. Et c'est par son Fils Jésus-Christ qui a vaincu la mort. C'est pas juste des belles paroles, c'est un fait historique accompli. Christ a vaincu la mort. Donc, il est immortel. Il l'était déjà avant, mais maintenant, on peut, nous, avoir cette immortalité par Christ, le seul sauveur. Donc, la perspective éternelle, ok? C'est ça le point de départ de ce que Dieu m'a communiqué. Parce que, vous savez, je me sens, bon, d'une façon, là, j'espère que je ne suis pas trop comme lui, mais je me sens un peu comme Lot, quand ça dit dans 2 Pierre, au chapitre 2, verset 8, qu'il était attristé, son âme était attristée à chaque jour parce que ce qu'il voyait puis ce qu'il entendait. Mon ami, ça, moi, je suis pas mal attristé, c'est-à-dire... Ah, ça va donc, mais c'est comme si tu entends mort partout. C'est, tu sais, dans les nouvelles, dans n'importe quoi, c'est comme la malédiction de la mort est plus évidente. Elle a toujours été là, mais on dirait qu'elle est plus évidente. Et vous savez que les choses ici-bas sont temporaires, sont vaines, sans issue et sans espoir. Bonne note d'encouragement, hein, ce matin? J'ai le don d'exhortation. Non, les solutions humaines à ce qui nous arrive en ce moment sont totalement vaines. Vous irez voir les prophètes, là, ils ne mangeaient pas leurs mots. Là. Maudit l'homme qui se confie en l'homme dans les narines duquel il n'a qu'un souffle. T'sais. Vous irez voir Ésaïe, là, puis s'il n'y avait pas de demi-mesure. Il avait bien raison, notre frère Ésaïe. Hein? Non, c'est Ésaïe 2, ça. Ésaïe 2, 22, me semble. Alors, Jérémie aussi, il en dit sur le cœur humain, là. Tu sais, quand on dit « Ah, t'as un bon cœur », tu vas voir Jérémie ce qu'il a pensé. Mais les choses de cette terre, ça pâlit en comparaison lorsque l'éternité, l'immortalité de Dieu, son royaume inébranlable, occupe notre champ de vision. Et, mes amis, savez-vous que c'est la seule chose qui vaut la peine de vivre pour, de se battre pour, puis de mourir pour? Le royaume éternel, immortel de Dieu. Le reste, ça vaut-il la peine de mourir pour quelque chose qui est vain, qui est voué à être détruit? Non. Mais Dieu, il est aucunement limité par le temps, l'espace, la mort. En d'autres mots, la croix, l'évangile, c'est la seule cause valable parce qu'elle est éternelle et qu'elle est merveilleuse. Et je résume cette pensée-là avec le titre du message ce matin, « La vie terrestre à la lumière de l'éternité ». N'est-ce pas ce qu'on est appelé? C'est pas notre appel, on est appelé à être, on est du monde, comme n'étant pas du monde, donc on est dans la vie terrestre. Je n'appelle pas à devenir des moines, puis qu'on s'en va tous sur le sommet de l'Himalaya, enfin, ça serait un peu froid l'hiver, là, mais s'en aller dans un sommet, s'isoler, puis non, c'est pas ça la vie chrétienne, on est dans le monde, puis on est le sel de la terre, la lumière du monde, mais on a la perspective éternelle, on vit à la lumière de l'éternité. On vit dans un monde où est-ce qu'il y a la mort, mais on connaît la vie qui vainc la mort, qui triomphe dans la mort. Tiens. Et c'est ce qu'on voit au verset 7. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire, l'immortalité. Ici, c'est une description de ceux qui sont sauvés sont caractérisés par ça. C'est pas qu'en faisant ça, ils deviennent sauvés. C'est quand tu es sauvé, c'est ça que tu cherches. Tu vas faire le bien, c'est-à-dire, pas parce que tu es une bonne personne, mais à cause de la grâce de Dieu dans ta vie, maintenant, ce que tu fais en Christ, en lui, c'est bien, parce que tes œuvres sont faites en Dieu, sont faites en lui. Okay? Et là, tu vas rechercher des choses, dont l'immortalité. C'est un peu ce que Paul disait quand il dit « Je suis allé chez vous, là, Corinthiens, avec nulle autre pensée que de prêcher Christ et Christ crucifié. » Il y avait une perspective éternelle. Il n'allait pas là pour faire de l'amélioration personnelle, faire du counseling de couple et tout ça. Il allait là pour prêcher Christ et Christ crucifié. Ou lui, dans sa vie personnelle. Il dit qu'il ne faisait aucun cas de sa vie, comme si elle était précieuse. Il dit que même mourir lui était un gain. Pourquoi? Parce que Christ est sa vie. C'est donc ce qu'on va considérer ensemble avec trois répercussions immédiates de la vie terrestre à la lumière de l'éternité. La première, on l'a au verset 7 qu'on a lu déjà quelques fois. La vie terrestre à la lumière de l'éternité met la présence de Dieu à l'avant-plan. Ce qu'on voit ici quand on lit le verset 7, il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire, l'immortalité. Ça, c'est une vie centrée sur Dieu. Où est-ce que la présence de Dieu est au centre? C'est quelqu'un qui a la présence de Dieu dans sa vie, qui cherche ses choses, qui a ses choses qui sont présentes dans sa vie. Et l'immortalité de Dieu, c'est bien important dans nos vies en ce moment. Je ne vous prêche pas un message qui était bon hier puis qui n'est pas bon demain. C'est bon en ce moment, puis ça va être encore bon demain. Mais pourquoi c'est important? Parce que, bon, on est fait à l'image de Dieu, n'est-ce pas? Et en tant qu'enfant de Dieu, on est immortel. Bon, on a une âme immortelle, qu'on soit sauvé ou non. Okay? La question, c'est où on va passer l'éternité. Et vraiment, c'est un appel au salut. Si quelqu'un ici n'a pas scellé sa destinée en mettant sa foi en Christ, il y a juste deux éternités selon la Bible. Une au ciel dans la présence de Dieu, l'autre en enfer, loin de la présence de Dieu. Et la question, c'est qu'est-ce que je fais de Jésus-Christ? C'est ça qui va déterminer si je passe mon éternité à un endroit ou à l'autre. Et si vous êtes un enfant de Dieu, mes amis, ça doit affecter toute notre présence. Les gens qu'on voit autour de nous, c'est des gens qui s'en vont dans l'une des deux destinées. Et c'est ça qui est le plus important, pensez-y, là. Quand même que la société irait pas si bien et on perdrait du confort, si c'est pour changer la destinée éternelle, n'est-ce pas que ça vaut la peine? N'est-ce pas que ça vaut la peine de perdre un confort temporaire pour que ça ait des répercussions éternelles? C'est ça l'idée de vivre à la lumière de l'éternité. Vivre ici sur terre, la lumière. Et ça, mes amis, ça met Dieu à l'avant-plan. Voici ce que je veux dire par là. C'est quoi vivre à la lumière de l'éternité? L'éternité, c'est avec la présence constante de Dieu. Vous savez, c'est pour ça qu'au ciel, il ne peut pas y avoir des gens qui rejettent Dieu parce que ça va être juste Dieu au ciel. Je veux dire, on va être dans sa présence, ça va être la gloire, ça va prendre toute la place, ça va être à l'avant-plan complètement. Et on va se réjouir de ça. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez hâte à ça, n'est-ce pas? On soupire par le Saint-Esprit dans nos cœurs pour ça. Pourquoi? Parce que c'est ça que Dieu fait dans la vie de ses enfants. On a les arts de l'esprit, ou c'est les prémices de l'esprit. C'est comme Dieu nous a donné un dépôt, puis on attend la pleine délivrance, mais déjà, oh, on a donc hâte d'être dans la présence de ce Dieu éternel. Vous savez, le nom de l'éternel, c'est « Je suis ». Yahweh, ou YHWH, le tétragramme. C'est-à-dire celui qui est toujours présent. Dieu est constamment dans le présent. Je suis celui qui suis. Et Dieu est toujours vivant, il est toujours présent. Et si on va à la lumière de l'éternité, c'est ça qui va arriver en premier dans notre vie, la présence de Dieu. C'est ça, vivre à la lumière de l'éternité. L'éternité, Dieu va toujours être là. Si je vis à cette lumière-là, Dieu, sa présence va être centrale dans ma vie parce que c'est ça qu'il y a dans l'éternité. Donc, si je transporte ça ici sur terre, vous comprenez ce que je vous explique? Ça va m'amener à la conscience de la présence de Dieu tout le temps. Et donc, dans des situations comme lesquelles il arrive en ce moment, au lieu de répondre de façon terrestre, OK? Ah, il arrive ça, puis on répond tout de façon terrestre. Mais si on a la perspective éternelle, on va répondre avant celui qui est éternel, envers celui qui est présent dans les choses qui arrivent en ce moment. Vous savez pourquoi? C'est Dieu qui envoie ces choses, donc c'est à lui qu'on doit répondre. Vous regarderez dans Job, au bout du compte, quand on regarde la vie de Job, il a bien répondu à ses amis, puis tout ça, puis ça allait pas très bien, hein? Si vous lisez la majorité du livre de Job, c'était pas très agréable. Ils appellent des consolateurs fâcheux, puis pauvre Job, veut dire, ça allait pas bien. Mais à la fin, quand Dieu se présente, quand Dieu est là puis qu'il est à l'avant-plan, puis quand une tempête vous parle, les enfants, si une tempête vous parle, peut-être que vous devriez en parler à vos parents parce que Dieu est en train de faire une œuvre dans vos vies, OK? Prochaine fois, là, que ça arrive, là, soyez attentifs. Parce que quand la tempête nous parle, Dieu va notre attention. Mais c'est quoi que on voit dans ce passage-là? C'est que Dieu revenait à la place qui lui a droit dans la vie de Job. C'est-à-dire, le Dieu qui est toujours présent, celui qui a envoyé toutes ces calamités, celui qui, parce qu'on sait, hein, quand on triche, là, quand on lit Job, on voit ce qui se passe en arrière du rideau. Mais n'est-ce pas ce qu'on voit? Ses amis étaient là, il y avait des discussions, il y avait toutes choses, mais à la fin, ça se résout quand Dieu reprend sa place là où il doit être dans la vie de Job, à l'avant-plan, en premier, puis c'est du quoi? Tout le monde se tait. Et je pense que le fait qu'on parle tant, puis qu'on murmure, là, je pointe pas personne du doigt. Je me pointe de toutes les 10 doigts, là. Mais quand on est comme ça, on est juste en train de confesser que Dieu n'est pas à l'avant-plan comme il devrait être. N'est-ce pas? Maintenant, savez-vous que juste d'expérimenter ça, le réconfort de la présence de Dieu, du Dieu immortel, c'est un grand réconfort. Dans la parole, on voit ça quand Dieu veut encourager des gens. Regardez dans Ésaïe 41, dans Josué 1. Il dit, je suis avec toi. C'est l'ultime réconfort. La présence de Dieu dans notre vie, c'est l'ultime réconfort qu'on doit rechercher. Ça, c'est un premier aspect sur la présence de Dieu. Mais savez-vous, il y a quelque chose de plus aussi. L'immortalité de Dieu et sa présence dans notre vie, lorsqu'elle est de l'avant, ça nous rappelle la différence fondamentale entre nous et Dieu. C'est-à-dire que Dieu n'est aucunement affecté par la chute, n'est aucunement affecté par la mort, le péché, et toute la séparation qui va avec. C'est arrivé une fois dans l'histoire, c'est quand le péché est tombé sur Christ. Il l'a subi pour nous, mais il l'a vaincu. Il n'en a pas été victime. Mais pour nous, ne sommes-nous pas douloureusement conscients? Ah, on est sous cette malédiction ici-bas sur terre. Mais Dieu, ça ne l'affecte aucunement. Et ça, mes amis, il y a aussi un réconfort là-dedans. C'est-à-dire que, puisque Christ a vaincu la mort, puisque la mort, la séparation, la chute n'a aucun effet sur lui, c'est-à-dire que quand on va à lui, on va à quelqu'un qui est pas touché par toutes ces choses d'ici-bas, qui n'est pas affecté par ça, qui n'est pas troublé par ça. Puis en plus, la Bible nous dit que la justice de Dieu, sa vie, nous est imputée par la foi. Il nous donne, on est participant de la nature divine même. Et donc, au lieu d'avoir cette malédiction qui est dans le monde, c'est ce qui est arrivé au salut, hein? On a la malédiction qui est dans le monde, tout ça, mais quand on a reçu Jésus-Christ comme notre sauveur, Dieu a renversé cette malédiction-là. C'est-à-dire, quand Jésus-Christ, cette malédiction de la mort, du péché, a été renversée dans nos vies. C'est ça la grande bénédiction du verset que j'ai cité ce matin, que nous étions morts. C'était notre lot, hein? Ça le dit dans Éphésiens, d'une autre façon, nous étions morts par nos offenses et nos péchés. Dans Colossiens, ça dit, nous étions morts par nos offenses et l'incirconcision de notre chair, mais il nous a rendu la vie. C'est ça, la présence de Dieu dans notre vie. C'est quand on se rend compte qu'avec Dieu, on a toute la vie dont on a besoin, toutes les aspirations de notre cœur. Mes amis, ça, c'est le Dieu immortel dans la vie de quelqu'un. Et quand on a ça, on a l'essentiel. Maintenant, ça c'est la première répercussion de la vie terrestre à la lumière de l'éternité, la présence de Dieu dans notre vie. Mais la deuxième, oh, je l'aime celle-là. C'est pas juste pour ma vie personnelle. Vous savez qu'il y a quelque chose de collectif là-dedans. Et on va aller le voir dans 2 Chroniques. Tournez avec moi dans 2 Chroniques, où est-ce qu'on va voir l'exemple du peuple de Dieu ici qui nous donne un principe spirituel bien important par rapport à ce que dont je veux vous parler sur la deuxième répercussion de la vie terrestre à la lumière de l'éternité. 2 Chroniques chapitre 5. Vous avez étudié le chapitre? Chapitre 5. La deuxième répercussion, la vie terrestre à la lumière de l'éternité, ça met l'unité spirituelle au centre de l'Église. Regardez bien ça, on le voit par voie d'illustration. Regardez chapitre 5, on va commencer au verset 11 pour nous situer un peu le contexte, ok? C'est lors de la dédicace, ok? Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des classes, et tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph, Heman, Jedutun, leurs fils et leurs frères, revêtus de byssus, se tenaient à l'orient de l'autel avec des cymbales, des luttes, des harpes, et avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Et là, c'est l'orchestre qui est là. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes, on a parlé de ça ce matin, ça a été cité comme verset, sonnaient des trompettes, et ceux qui chantaient s'unissaient d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, fit retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et célébra l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. C'est vous ce qu'on a fait un matin? Bon, peut-être pas avec tous les instruments qui sont là, là, mais c'est ce qu'on fait quand on chante. On célèbre l'Éternel, on s'unit d'un même cœur et nos regards, nos voix sont tournés vers l'Éternel. N'est-ce pas ce qu'on fait quand on chante? C'est pour ça que c'est tellement important, mes amis. C'est pas juste quelque chose qu'on fait. Puis regardez ce que ça donne. J'avais pas fini le verset. « Car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. À ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. » La nuée de la présence de l'Éternel. Dieu est descendu sur eux. Savez-vous que c'est arrivé dans des réveils? Si je ne me trompe pas, les réveils de Welsh, il y avait quelque chose de spécial qui arrivait lors des cantiques. Des fois, il y a souvent, ça commence avec des saisons de prière et tout ça, mais si je ne me trompe pas, il me semble que c'est celui sur les îles de Welsh, où est-ce que vraiment le Dieu dirigeait, puis les gens chantaient beaucoup, puis vraiment la présence de Dieu était là au milieu d'eux d'une façon unique. Donc, vivre ici sur terre à la lumière de l'éternité, ça met l'unité spirituelle au centre de l'Église. Parlons d'unité spirituelle. L'unité du peuple de Dieu à le célébrer et à le louer. Ici, là, sont unis dans la célébration de la louange de Dieu. D'un cœur, ils disent « Wow, quel grand Dieu! » Quel Dieu merveilleux! Puis ils chantent. Puis c'est ça qui est puissant avec la musique. Il y a une joie, il y a une unité, il y a quelque chose d'unique qui se fait juste en chantant. Ça veut dire, on peut le dire, puis je peux amener un message, puis parler de ça, mais quand on chante, c'est unique. Il n'y a pas d'autre façon. C'est un design de Dieu qui est fait pour que c'est comme ça qu'on le vit, puis ça nous touche, ça vient nous chercher d'une façon bien spéciale. Donc, quand le peuple comme ça est uni à le célébrer, à le louer d'un même cœur, ça l'attire sa présence certainement au milieu de nous autres, au centre de l'Église. Et ça, mes amis, la puissance de l'unité spirituelle de l'Église, c'est tellement important. Surtout dans des temps comme en ce moment, mais vous savez que quand Paul parle aux églises, puis tout ça, puis regardez le livre aux Corinthiens, puis dans Éphésiens, ça en parle aussi. L'Église, une des instructions les plus fondamentales, les plus importantes qui revient par rapport à des églises locales comme les nôtres, c'est l'unité spirituelle. Regardez, en Corinthiens, il y avait plein de divisions partout, puis Paul a passé deux lettres à voir rétablir ce qui avait été perdu. Puis quand ça nous dit dans Éphésiens chapitre 4 qu'on doit s'efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, c'est vraiment fondamental. Et donc, c'est pour ça que nous devons, c'est pas optionnel, nous devons nous rassembler à cause de ce que nous sommes. Ou pour être plus précis, à cause de ce que Dieu a fait de nous. Savez-vous ce qu'on est? On est une ecclésia. Ecclésia. En anglais, on dit « corps », ça vient du mot pour « appeler ». Ben, « ecclésia », c'est « appeler hors de » ou « en dehors, appeler ». Parce qu'ils ont mis ça à l'envers, là, comme les Français et les Anglais, là, on vient des mots à l'envers. Mais c'est une assemblée qui est appelée hors du monde. C'est ça, une ecclésia. C'est ça, une église. C'est une assemblée qui est appelée en dehors du monde. Une assemblée. Et donc, le but de notre rassemblement, c'est que la présence de Dieu soit au milieu de nous autres, puis dans l'unité spirituelle, on célèbre cette présence, ce Dieu grand et merveilleux. OK? En le louant, en le célébrant. Puis si on n'a pas ça, non seulement on ne peut pas expérimenter l'unité spirituelle, la présence de Dieu comme lui le veut, mais pire encore, on n'agit pas selon ce que lui a fait de nous. Ici, ce n'est pas une entreprise humaine, ce n'est pas une idée qu'on a, ah ben tiens, on va être... Non, c'est l'idée de Dieu, là, l'Église. Là. Puis, on répond à ça par la foi, c'est Dieu qui a fait ça, donc on agit selon ça. Et mes amis, on porte atteinte à la nature même de ce que Dieu a créé par l'Église, à son but et à son message lorsqu'on ne s'assemble pas. Parce que c'est quoi? L'Église, c'est une image de Christ, l'épouse et Christ. Et c'est une union, n'est-ce pas? C'est une assemblée, c'est un organisme, il y a une union là-dedans. Ça ne marche pas en ligne. Ça ne marche juste pas en ligne. Sa méthode, la méthode de Dieu, c'est d'infiltrer le monde, d'influencer le monde, par ses enfants remplis de son esprit. Puis quand l'Église se rassemble, on s'encourage là-dedans, on se fortifie là-dedans. J'irai voir Éphésiens chapitre 5, quand ça parle d'être rempli de l'esprit, là, okay, ça dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire rempli de l'esprit. » Regardez ce qu'il y a après, c'est toute Église, tout ensemble. S'entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, puis là, se soumettant les uns aux autres. C'est pas en vase clos, ça, là. Puis même après ça, ça continue, parce que c'est ça dans la relation de couple, la relation de famille, la relation de travail. La plénitude de l'esprit, c'est relationnel. T'es pas dans ton petit coin, tout ça. C'est ensemble, c'est l'idée, c'est vraiment par rapport à ce que Dieu a fait. Mais permettez-moi d'ajouter ceci. Quel droit ou quelle autorité a un gouvernement païen sans crainte de Dieu de dénaturer l'œuvre de Christ? est-ce qu'on croit à l'autorité de ce qui est ici? Vraiment, c'est une question d'allégeance. Je pense qu'on est rendu, c'est clair, à qui je vais vouer mon allégeance sur l'adoration de Dieu. Et mes amis, on a la réponse avec Daniel, dans le livre de Daniel. Shadrach, Meshach et Abednego, là, c'était la façon d'adorer, puis c'était, OK, ah, on peut dire, ben c'est pas grave, là, c'est juste de la musique, puis... Non, c'était non discutable. Ils sont allés dans une fournaise ardente parce qu'ils n'ont pas voulu adorer comme... Ils n'ont pas voulu se plier à la pression gouvernementale. Même chose avec Daniel 6 dans la fosse aux lions. Puis c'était pas parce que c'était pour se rassembler, c'était pour prier. Il y a des gens qui disent « Ah, tant qu'on a le droit de prêcher la parole, c'est correct. » Non. Dieu ne dit plus que prêcher la parole, il dit se rassembler, de prier. Puis c'est Dieu notre autorité. Il faut voir, c'est une attaque à Christ. Vous savez que Christ est invincible, il est glorieux, victorieux, Satan ne peut pas y toucher. Mais qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il veut s'attaquer à son corps. Il veut s'attaquer à l'aspect vulnérable, si vous voulez. On est le maillon faible, parce que dans notre humanité, puis OK, on a des peurs, on a tout ça, fait que Satan s'attaque à ça. Mais qu'on se rappelle ce qu'on est en Jésus-Christ. En fait, on n'est pas faible, on peut tout par celui qui nous fortifie. En nous, on est extrêmement faible, en fait, on est vaincu par nous-mêmes. Mais avec ce que Dieu a fait de nous autres, on n'a rien à craindre. On n'a rien à craindre. Je continue ma petite aparté ici. Au nom de la sécurité, est-ce qu'on va tout changer alors qu'en réalité... On est incité à avoir peur, nous qui sommes appelés à marcher par la foi. Est-ce que nous ne devons pas plutôt avoir aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt les condamner et de marcher au milieu des ténèbres comme des enfants de lumière? Je pense qu'on a là une intrusion 100% étrangère dans la sainte communion des enfants de Dieu. Et comme on l'a prié ce matin, c'est pas par rébellion, c'est pas par esprit de dispute, comme on le voit, on l'a vu dans Romains, mais c'est parce qu'on n'a pas le choix. Notre allégeance est avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qui est arrivé dans le livre des Actes. Jugez-en vous-même. On peut pas. On n'a pas le choix. Justement, est-ce qu'on devrait obéir à Dieu ou aux hommes? La réponse était self-evident, était évidente de soi-même. C'est l'obligation que nous avons envers notre Dieu. Et si nous chérissons, et c'est important ce que je vais dire là, si nous chérissons cette unité spirituelle, cette présence de Dieu douce et bénie au milieu de nous autres que ça procure, alors le choix est déjà fait. Il est non négociable, il est non changeable. Et j'irais même jusqu'à dire que ce qui est bien inquiétant, c'est lorsque des chrétiens et des églises se posent même la question de se plier à ce genre d'intrusion. La chrétienté historique a répondu clairement à cette question. En Russie, en Chine, historiquement, avec les mouvements qu'il y a eu, les vaudois, la question, poser la question, c'est déjà d'avoir la réponse. Évidemment que non. Je veux dire, qu'a à faire César dans la direction de l'Église de Jésus-Christ? Je pense que c'est un sombre portrait de l'état de l'unité spirituelle de nos églises. Puis remarquez comment aussi Satan veut rentrer avec toute la division. On va parler de ça un peu plus tard, peut-être dans le mois. En tout cas, je suis en train de prier là-dessus, un message que le Seigneur est en train de me donner. Mais où est-ce que pour attaquer l'unité spirituelle, on s'en va tous chacun dans des affaires, puis là, on poursuit tous des petits combats au lieu de combattre le bon combat. Ça, c'est le travail de Satan. Où est-ce qu'on va s'ostiner puis chicaner sur des affaires qui, dans le fond, c'est pas la fin du monde, c'est pas le plus important. Tant qu'on chicane puis qu'on se divise les uns les autres, on dérange pas Satan. Mais lorsqu'on est unis d'un seul cœur à célébrer puis à louer notre Dieu, oh, mes amis, là, il va se mettre à se passer des affaires. Pourquoi? Parce que là, on est dans les mains de Dieu. Quand on loue puis on le célèbre, on le remercie, c'est le chant de la foi, c'est le chant de la délivrance. Quand il y a ça, Dieu se présente au milieu du peuple. Si vous étudiez l'histoire des réveils, c'est ça qui arrive. Et ça vient après des temps d'humiliation. Et je pense que là-dessus, on doit se poser la question, est-ce que Dieu doit venir au milieu de nous autres, ou il est comme dans le livre d'Apocalypse, puis il frappe à la porte, parce que vous irez voir, mais dans Apocalypse 2, 3-20, quand il frappe à la porte, parce qu'il ne pouvait pas rentrer, parce que les gens étaient tellement suffisants en eux-mêmes, puis la vie était tellement toute correcte, comment il avait tout organisé, que Dieu n'était même pas au milieu d'eux autres. C'était une catastrophe spirituelle. Il n'y avait pas d'unité spirituelle, pas de présence de Dieu. Et encore une fois, on voit que la crise que nous voyons, c'est l'élément révélateur pour démasquer cette attitude laodicéenne de nos églises. Dieu est bon. Il veut nous ramener à lui. Il veut nous ramener à l'essentiel. Il veut qu'on vive sur terre à la lumière de l'éternité. Ça m'amène à la troisième répercussion de cette vie terrestre à la lumière de l'éternité. Non seulement ça met la présence de Dieu à l'avant-plan, non seulement ça ramène l'unité au centre de l'Église, mais vous connaissez Matthieu 6, 33, n'est-ce pas? « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Vivre sur la terre à la lumière de l'éternité, ça met le royaume de Dieu au cœur de notre mission. On va le voir ce soir, hein? La mission apostolique, c'était quoi? Aller prêcher le royaume de Dieu est proche. C'est ça qu'ils prêchaient. Ah, mais ça, c'est les apôtres. Nous, on prêche pour ça. Alors, on prêche la même affaire. Quand on prêche l'Évangile, là, qu'on dit que Jésus-Christ... On prêche que le royaume de Dieu est proche. On prêche que ce royaume ici sur terre a été vaincu et qu'il n'y a pas de délivrance et que la délivrance est à celui qui est immortel, qui est éternel. C'est ça qu'on prêche. On prêche que le royaume de Dieu est proche. Quand on prêche l'Évangile, on prêche le royaume de Dieu qui n'est pas de ce monde. Et c'est pour ça, même quand on priait ce matin, il y a un grand piège que je vois s'en venir en ce moment, autant dans le monde que chez les chrétiens. De plus en plus, là, tu sais, ça commence à être contraignant, puis là, les gens surpris appellent la délivrance. Le piège, c'est de se satisfaire de trouver une délivrance autre que celle de Dieu. La délivrance d'un psychologue, la délivrance des drogues, la délivrance de ce qu'on peut avoir ici-bas. La délivrance, le salut vient de l'Éternel. Il faut qu'on prie là-dessus pour que nous, que le peuple de Dieu, que les gens dans le monde qui ne sont pas encore sauvés, recherchent la délivrance qui ne vient que de Dieu seul. C'est ça, c'est la seule qui compte. Ah, les autres, ça fait du bien, tout ça, mais c'est quoi que ça servirait si on avait des délivrances temporaires, si on n'est pas délivré de la condamnation éternelle qui plane sur tous ceux qui rejettent Christ. Donc, c'est ça l'idée. Quand on vit comme ça sur terre, avec cette perspective éternelle, ça remet la mission au cœur, le royaume de Dieu au cœur de notre mission. Et donc, ce fameux verset dans Matthieu, là, cherchez d'abord, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, ça nous rappelle que l'essentiel, la chose principale que nous devons rechercher, il y en a une, c'est le royaume de Dieu. C'est pour ça qu'on doit se tenir lorsqu'il y a de l'opposition. C'est pour ce royaume. Parce que pensez-y, l'opposition qu'on vit, c'est par le royaume de Satan qui s'oppose à celui de Dieu. Quand on cherche le royaume de Dieu et qu'il y a de l'opposition, ça ne vient pas du royaume de Dieu, ça vient d'un autre royaume. Puis il y a encore là, il y en a juste deux. Il y a le royaume de Satan et le royaume de Dieu. Et ça, mes amis, c'est vrai autant contre l'invasion du royaume de Satan par la tromperie, la peur, l'auto-rédemption. OK? On voit ça beaucoup en ce moment. Hein, vous avez la grande conspiration, là. C'est pas né d'hier, puis avec la pandémie, là. La grande conspiration cosmique qui a commencé depuis la chute, c'est « On peut se sauver nous-mêmes! » Puis c'est un grand piège qui arrive. Puis faut pas que nous, on tombe dedans. Puis il ne faut pas non plus qu'on laisse les autres tomber dedans. On doit prêcher celui qui donne la vraie délivrance. Puis ça ne vient pas de nous-mêmes, ça vient de l'extérieur, ça vient de Dieu. Donc l'auto-rédemption, c'est vraiment quelque chose qu'on doit contrecarrer par l'Évangile éternel. Mais aussi, on est appelé à se tenir pour le Seigneur. Non seulement on est appelé à se tenir compte. T'sais, dans le royaume de Dieu, là, on se tient contre l'invasion du royaume ennemi. Mais on se tient aussi pour, on est sur l'offensive, si vous voulez, d'une façon, malgré que notre Dieu a déjà vaincu, a déjà tout remporté la victoire, mais on lutte avec les armes de Dieu. Nos armes ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu. et on se revêt de ces armes de Dieu, qui la majorité sont défensives, mais il y en a une qui est offensive, la parole de Dieu. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et ça, mes amis, ça a un impact éternel. C'est comme ça qu'on peut laisser une trace dans le monde qui vaut la peine. Avec les armes de Dieu. D'ailleurs, il y a bien des pièges, j'entendais cette semaine. Savez-vous qu'historiquement, il y a même eu des mouvements, parce que c'était en Italie, là, je ne me rappelle plus comment ils appelaient ça, là, puis je parlais de ça avec Dave, je ne sais pas si c'était avec Mussolini, là, en tout cas. Mais, il n'y a pas si longtemps en Italie, le gouvernement a amené des mesures qui étaient vraiment irritantes pour le peuple. OK? Tu sais, des affaires que là, les gens, non, ça n'a pas de bon sens. Puis là, les gens se sont choqués, sont allés dans les rues, mais il y a eu de la casse. Puis là, le gouvernement est arrivé, ah, vous voyez, on a besoin de faire des mesures, puis d'être plus contrôlant, puis tout ça, puis... Mes amis, ça, c'est le genre d'affaires qui arrivent dans le monde. Puis mais nous, si on se bat avec les armes de Dieu, là, on va même pas sur ce terrain-là. Je veux dire, ce qu'on a besoin, c'est pas la délivrance. C'est pas, puis c'est vrai que c'est irritant, c'est vrai qu'il y a des affaires tannantes, mais on n'a pas besoin d'aller dans la rue puis de se révolter. Puis on a besoin de prêcher Christ. Puis les gens sont désespérés en ce moment, puisqu'il va leur donner la délivrance de leur cœur, de plus être pris par la peur, de plus être désespéré pour avoir le goût même de perdre, de s'enlever la vie. C'est Christ, mes amis. Parce que quand même on fait une révolution dans la rue, puis qu'il y aurait tous les criminels seraient amenés en justice, il n'y aurait pas de délivrance de cœur quand même. Donc, il faut qu'on garde ça au centre, mes amis. C'est tellement important. C'est ça, mettre le royaume de Dieu au cœur de notre mission. Les chrétiens du premier siècle ont conquéri le monde avec ce genre d'arme-là. Ou c'est ce que M. Hudson, et je pense qu'il s'en est servi de cette arme-là, M. Hudson appelait ça l'agression de l'amour. Vos ennemis vous font du mal, puis ils veulent vous défaire. Répondez avec l'agression de l'amour, c'est-à-dire un amour qui est tellement pas de ce monde que les gens vont dire, c'est quoi cette affaire-là? C'est de ça que les gens ont besoin. C'est de voir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Savez-vous que toutes les lois, tous les principes, le fonctionnement du royaume de Dieu sont à l'inverse de celles du royaume de Satan? Dans le royaume de Satan, on prend les mesures, on ne se laisse pas faire, puis on va de l'avant. OK? On se retrousse les manches, puis on prend les choses en main. Dans le royaume de Dieu, c'est complètement l'inverse. On met tout dans les mains de Dieu. On se décharge sur lui. Au lieu d'essayer de prendre en main, on le met dans ses mains. Je veux dire, dans le royaume de Dieu, ça marche complètement à l'opposé. Puis d'ailleurs aussi, dans le royaume de Dieu, hein, Jésus le dit, celui qui s'élève va être abaissé. Mais celui qui s'abaisse, il va être élevé. Je veux dire, dans le royaume de Dieu, ça ne marche pas tout comme dans le royaume d'ici-bas. C'est pour ça qu'on doit se battre avec les bonnes armes. La prière, la parole de Dieu, la justice de Christ, la paix qui surpasse toute intelligence, toutes ces choses. C'est pour ça que c'est ce verset-là, hein, qui dit que les armes avec lesquelles on combat ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu, c'est vrai, puis c'est efficace. Pourquoi? Parce que ça renverse les forteresses, puis c'est ça qui détruit notre monde, c'est les forteresses dans la vie du peuple de Dieu, puis des gens qui ne sont pas encore sauvés. Et je veux dire, c'est pas les moyens de ce monde qui vont les renverser. Et c'est ça l'idée. Vous savez, on est une assemblée hors de ce monde, puis on combat avec des moyens qui ne sont pas dans ce monde non plus. On combat ce qui est profane avec ce qui est saint. On combat la haine et la dérision par l'amour qui est en Jésus-Christ. On combat les ténèbres par la lumière. On combat la peur par la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. On combat le murmure contre la joie du Saint-Esprit. Puis d'ailleurs, ça aussi, dans Romains 14, 17. Car le royaume de Dieu, c'est pas le manger et le boire. Maintenant, j'ai rajouté les masques ou les mesures gouvernementales, mais c'est la paix, l'amour, la justice, la paix par le Saint-Esprit. Donc, où ça nous laisse tout ça ce matin? La vie terrestre à la lumière de l'éternité. Comment ce message-là se transpose dans la réalité d'un lundi matin qui s'en vient à grands pas? Excusez, je voulais pas vous décevoir. C'est pas une prophétie, là. C'est vrai. En tout cas, si Dieu nous donne demain, demain c'est lundi. Pas toujours facile les lundis, hein? Et qui nous frappe par sa banalité, son ordinarité. Comment ça va se transposer de vivre cette vie terrestre à la lumière de l'éternité? Je pense que la réponse, c'est qu'on a besoin de reconsidérer notre besoin vital de la grâce de Dieu. Parce que quand on y pense, tout ce dont nous avons besoin là, pour vivre ici sur terre à la lumière, c'est la grâce de Dieu. J'ai parlé de présence. C'est quoi ça? Est-ce qu'on mérite la présence de Dieu parmi nous? Est-ce qu'on mérite quelque chose de Dieu? Non, tout est par grâce, n'est-ce pas? Et je veux vous l'illustrer avec un point important dans le livre des Actes. Vous voyez, dans le livre des Actes, il y a une grande bénédiction qu'on voit dans le chapitre 4, là. Il priait, bon, il y a la fameuse prière où est-ce qu'il prie, Seigneur, qu'on soit rempli de ton Saint-Esprit, puis qu'on prêche la parole avec assurance. Boum, Dieu répond, tremblement de terre, puis l'impression d'une description de la vie de l'Église primitive. Waouh, tout le monde était ensemble, d'un même cœur, puis ils partageaient les choses, ça, puis ça dit, une grande grâce les accompagnait. C'est le secret de l'Église du livre des Actes. C'est la grâce de Dieu. Une grande grâce. Il y avait une faveur de Dieu. Beaucoup venaient à Christ et il y avait toutes sortes de choses qui se passaient parce que c'est la grâce de Dieu qui agissait. Une grande grâce était sur eux tous. Et là, les choses avancent un petit peu puis on arrive dans le chapitre 5 où est-ce que il y a les événements avec Ananias et Saphira. Vous savez, on mentit au sujet de la vente du terrain. Il aurait pu dire la vérité, mais bon, c'était de l'hypocrisie, du mensonge. Et ceux qui ont peur, qui ont été hypocrites et menteurs dernièrement, si vous avez peur de mourir, c'était vraiment une leçon d'objet que Dieu donnait. Parce que je pense qu'on serait tous morts ici aujourd'hui, si on était comme Ananias et Saphira, n'est-ce pas? Mais Dieu donnait une leçon d'objet, son église était toute naissante, et Dieu voulait dire, c'est pas une affaire de fling-flag de mon église, là, c'est sérieux. Dieu voulait montrer que c'était la continuation du judaïsme qui maintenant était... OK, c'était parce que le judaïsme avait beaucoup de notoriété, puis hey, le temple, puis tout ça, puis les gens avaient tendance à dire, le christianisme, ça, c'est un peu fling-flang. Fait que Dieu voulait défendre cette mentalité-là, dire, non, non, c'est la continuation, là. C'est des enfants d'Abraham, là, tu sais, c'est pas n'importe quoi, là. Le temple était là, mais là, eux autres, c'est le temple de Dieu en personne. Oh, comprenez-vous? Et là, pour ça, il a permis qu'Ananias et Saphira meurent, pour donner raison à eux, c'est pas n'importe quoi. Et là, qu'est-ce que la Bible nous dit à la fin de toutes ces choses? Une grande crainte était sur eux tous. Et je pense qu'il y a une importante leçon ici. Dieu avait une grande grâce qui déferlait sur son peuple. Et il y avait un danger que cette grâce soit prise pour acquis, soit... OK, il y avait des pièges qui venaient avec ça. Donc Dieu a permis les événements d'Ananias et Saphira pour conserver cette grâce. Comment? Par une crainte de Dieu. Et on a besoin de ça, mes amis. Dieu veut faire une œuvre de grâce au milieu de nous autres. Et pour que ça se préserve, pour que ça l'avance, on a besoin de craindre Dieu plus que les hommes. On vit dans une époque où est-ce que la peur, la crainte est mise de l'avant d'une façon incroyable. Mais c'est toute la crainte des hommes. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? La crainte des hommes tend un piège. Mais celui qui se confie en l'Éternel, on pourrait dire, pour mettre ça avec la... Celui qui craint l'Éternel, c'est ça, hein, quelqu'un qui craint l'Éternel, il se confie en l'Éternel, est protégé. Est-ce qu'on croit ça ce matin? Je pense qu'on a besoin de ça pour avoir la présence de Dieu au milieu de nous autres, l'unité spirituelle, puis que le royaume de Dieu soit au cœur de notre mission. On a besoin d'une grande grâce, et pour la préserver, il faut qu'on ait la crainte de l'Éternel plus que la crainte des hommes. C'est ça notre protection. L'Éternel est ma lumière, l'Éternel est mon salut. Que peut faire un homme? Je veux dire, s'il vient, puis, OK, je me rappelle tout le temps ce cantique de Martin Luther, quand ça dit, c'est un rapport que notre Dieu, puis ça dit,
qu'ils prennent tout chrétien, notre vie et nos biens. Laissons-les faire. Ils n'y gagneront guère. Le royaume nous appartient. Dieu va nous protéger. Puis même s'il faut qu'on meure. Hey, savez-vous que les apôtres étaient contents. Ils disaient, on était jugés dignes de souffrir pour le nom de Christ. Quand une fois qu'ils ont été battus, ils sont tous morts à cause de Christ. Puis même, il y en a dans leur mort, ils disent, oh, je veux pas. Pierre, vous savez, hein, il a été crucifié comme ça. Il a été crucifié à l'envers. Pour ne pas mourir comme son Seigneur, il ne s'en jugeait même pas digne. Même dans sa mort, il ne jugeait pas digne de mourir comme son Seigneur. Mes amis, il y a quelque chose qu'il avait compris sur la vie terrestre à la lumière de l'éternité, n'est-ce pas? Et c'est ça dont on a besoin. Une grande grâce qui est préservée, qui avance avec une grande crainte de l'Éternel. C'est tellement important. L'Église de Jésus-Christ est menacée par la peur de l'homme, la crainte de l'homme. Si on va avoir une influence dans ce monde, il va falloir qu'on fasse comme toutes les autres. On n'est pas plus fin que les autres. Comment l'Église de Jésus-Christ a eu une influence dans ce monde? En faisant confiance à Dieu. Prenez la crainte de Dieu plus que celle des hommes. Jean Hus, puis je parlais de Martin Luther, puis les mouvements chrétiens historiques, ils ont avancé, mes amis. Il y avait de la menace, puis de la mort, puis de la... Mais ils ont avancé pareil, puis c'est comme ça qu'a influencé le monde. Qu'est-ce que je vous ai dit tantôt? Dans le royaume de Dieu, ça marche tout à l'inverse dans le royaume ici-bas. Si on veut sauver notre vie, puis tout ça, on va la perdre. Si on veut avoir de l'influence en tout gardant, tout comme faut, on n'aura pas d'influence. Il faut qu'on fasse confiance à Dieu. Donc, que cette crainte de Dieu soit vivante et puissante au point où elle supplante celle de l'homme. Parce qu'on n'est pas dans la pensée, la philosophie, la religion de ce monde pour y vouer notre allégeance, mes amis. Je vous ai envoyé, je pense que à peu près tout le monde ici. Ah, Alejandro, non. Pas parce que je t'aime pas, frère, mais c'était juste en anglais. Même que tu aurais peut-être pu le trouver en espagnol, parce que je sais qu'ils font des choses en espagnol. Le ministère de Dennis Prager, Prager University, il y a un jeune homme qui s'appelle Will Witt, un drôle de nom, hein? Pas un William Witt ou Will Witt, qui a fait un petit vidéo, puis je voulais partager, ça s'appelle « The Religion of Green ». Puis, ça m'a amené à réfléchir sur, puis je vous ai mis les versets, hein, « La pensée de l'homme non régénéré ». C'était tellement une forte illustration de ce que je vous parlais, de chercher de la délivrance ici-bas, puis comment c'est monté au point d'une religion organisée avec ses prêtres, sa doctrine, puis n'est-ce pas incroyable, pareil, puis on peut même, comme je l'ai dit, on peut copier-coller ça, c'est avec la religion, mais on peut prendre ça avec, l'environnement, ça peut être ça avec LGBTQ, avec même le virus en ce moment, c'est tout le même pattern, où est-ce que, tu sais, il y a tout ce système-là, et c'est littéralement la nouvelle religion, mes amis, avec sa doctrine, ses prêtres, ses rétributions, ses œuvres, ses bonnes œuvres, sa loyauté. Et pensez-y. Si c'était pas d'eux, la vie aurait continué comme avant. Si on n'avait pas cette religion-là qui nous est imposée, mes amis, ça irait pas mal mieux avec la grâce commune de Dieu. Mais Dieu l'a permis. N'est-ce pas ce qu'on disait tantôt? Dieu l'a permis. Dieu est souverain. C'est lui qui a même orchestré ça pour mettre notre foi à l'épreuve puis pour voir où est notre allégeance. On est rendu là, mes amis. On ne peut pas servir deux maîtres. Où est notre allégeance? Et on est dans un monde qui dit qu'il a rejeté Dieu puis tout ça, mais il est encore très religieux. Et il demande, il exige notre allégeance. Comme Nebuchadnezzar, comme les ratoureux qui ont voulu prendre Daniel avec l'affaire du décret du roi. Là. C'est pareil. Où est-ce qu'on va se tenir? C'est une question d'allégeance au Seigneur Jésus-Christ. On est au sein d'une tempête. Et c'est le temps plus que jamais de regarder au soleil de justice. Vous savez, il peut y avoir bien des nuages. Mais le soleil est toujours là. Il peut y avoir bien des nuages dans notre vie, mais Christ, le soleil de justice est toujours là. Donc, alors qu'on s'apprête à prier ensemble, compris dans le même esprit que les apôtres qui ont prié, Seigneur, vois leurs menaces, tu vois ce qui arrive, tu vois nos peurs, tu vois ce qui nous agite. Mais on ne te demande pas de nous cacher, puis qu'on n'ait pas de problème, mais donne-nous l'hardiesse de continuer, puis de faire face à la situation remplie de toi, remplie de ton esprit, puis au lieu de parler de tout ce qu'on n'aime pas, qu'on prêche Christ. Ça, c'est ma grande traduction paraphrase rallongée du verset 29, là. Mais c'est ça l'idée. Seigneur, qu'on soit pas rempli de peur, qu'on soit rempli de toi, qu'on arrête de parler de nous autres, puis qu'on parle de toi. C'est ça la vie terrestre à la lumière de l'éternité. Savez-vous quoi? C'est la raison pour laquelle on est encore sur terre. Parce que on est la bouche de Christ, on est ses bras, on est ses pieds, on est ses mains. Et Dieu veut se servir encore de nous autres. Dieu ne peut pas se servir de nous autres. Si tu es vivant et que tu es un enfant de Dieu, Dieu a des œuvres préparées d'avance pour toi, mon ami. Sois juste à l'écoute, puis laissons Dieu. N'est-ce pas excitant de voir que Dieu peut faire quelque chose encore dans ces derniers temps, amener les hommes au Seigneur? C'est vrai, on entend des témoignages. Les gens commencent vraiment à avoir la mine basse, mes amis. Prions que Dieu travaille dans leur cœur, qu'ils ne cherchent pas cette délivrance ici-bas sur terre, mais celle qui vient de Christ et Christ seul, puisqu'on a la joie, le privilège de leur partager. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Merci Seigneur pour ce temps qu'on a pu prendre pour s'arrêter avec ta parole merveilleuse qui nous ramène les yeux sur toi, qui magnifie le grand Dieu que tu es. Seigneur, c'est ce qu'on veut dans nos vies. On ne veut pas voir nos problèmes grands puis ce qui arrive dans la société plus grand que toi. Tout ça, Seigneur, n'est que vanité, n'est que souffle. C'est toi le Dieu éternel, immortel, invincible. Et c'est à toi qu'on regarde, Seigneur. Merci dans ta bonté de nous amener à avoir la crainte de toi et non celle de l'homme. Et Seigneur, on veut ta grâce, on veut une grande grâce en abondance. Et Seigneur, tu la donnes à ceux qui te font confiance. Délivre-nous de la crainte de l'homme et qu'on te craigne, toi. Merci, Seigneur, que tu fais cette œuvre. Merci. J'étais content d'entendre ça dans la lettre de prière des pères au Venezuela. Un autre exemple, comme on le voit en Californie, de gens, de nos frères et sœurs dans ton corps qui sont un exemple, un encouragement. Seigneur, tu es tellement bon envers nous. On s'appuie sur toi, on se décharge sur toi ce matin. Dirige ce temps de prière, Seigneur, alors que ton peuple répond à ce que tu as dit. On prie ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen.